Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La lumière du bonheur ». Quatrième tome de la traversée des temps d'Eric Emmanuel Schmitt est un roman historique et philosophique situé dans la Grèce du 6e siècle avant Jésus-Christ. Le récit suit Noam, personnage immortel déjà connu dans la saga, lorsqu'il arrive à Athènes comme métèque, donc étranger non citoyen, dans une cité en pleine transformation politique et culturelle. Le livre interroge sa manière de trouver une place dans un monde où naissent la démocratie, le théâtre, la philosophie et les grands débats civiques, à travers une intrigue mêlant amour, intégration, vie collective et réflexion morale, l'auteur propose une lecture vivante de l'Antiquité. Le roman ne se contente pas de reconstituer une époque, il l'utilise comme miroir pour penser les tensions contemporaines entre désir, liberté, mesure et responsabilité partagée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'arrivée de Noam à Athènes comme épreuve d'intégration civique. Le cœur narratif du livre repose sur la position de Noam, étranger dans une Athènes qui valorise fortement l'appartenance à la cité. Son statut de métèque donne au roman une tension sociale très concrète. Il ne suffit pas d'être présent dans la ville, il faut y être reconnu. Schmitt utilise cette situation pour montrer que la citoyenneté antique n'est pas seulement un privilège administratif, mais une manière d'exister parmi les autres, de participer aux rites, aux débats et aux fêtes. L'enjeu dépasse le cas individuel de Noam, car il renvoie à la façon dont une communauté accueille ou rejette la différence. Le roman fait ainsi de l'intégration un problème politique autant que relationnel et suggère qu'une société se définit par la manière dont elle traite ceux qui veulent en partager la vie sans en avoir encore les droits. Deuxièmement, Athènes comme berceau de la démocratie, du théâtre et de la pensée critique, le livre prend Athènes pour scène principale au moment où s'y élaborent plusieurs institutions fondatrices de la civilisation occidentale. Cette concentration historique donne au récit une portée plus large que l'aventure individuelle, la ville devient un laboratoire des formes de vie communes. La démocratie, le théâtre et la philosophie n'y apparaissent pas comme des idées abstraites, mais comme des pratiques ancrées dans le quotidien, les concours d'éloquence, les discussions publiques et les représentations collectives. Schmitt s'appuie sur des figures historiques comme Socrate, Aristophane, Hippocrate, Périclès ou Aspasie pour faire sentir que les grandes innovations naissent dans un tissu social précis. Le roman rappelle ainsi que les institutions ne sont pas seulement des cadres politiques, mais aussi des lieux où se fabriquent des façons de parler, de juger, de s'exposer et de se corriger. Cette dimension donne au texte sa valeur d'exploration des origines de notre modernité. Troisièmement, le désir et le bonheur pensés à travers la leçon socratique, la question du bonheur n'est pas traitée ici comme une promesse facile, mais comme une difficulté morale. Le titre même renvoie à l'idée qu'il faut accepter de se brûler à la lumière du bonheur, donc risquer l'attachement, la vulnérabilité et l'incertitude. Dans cette perspective, la pensée socratique joue un rôle central. Le roman met en avant une éducation du désir qui ne consiste pas à réprimer les élans, mais à les orienter vers ce qui est juste. Le mieux vivre passe alors par le mieux désirer. Cette idée donne une cohérence philosophique au récit. La liberté ne se confond pas avec l'absence de limites. Elle dépend d'une forme de maîtrise intérieure. En faisant dialoguer amour, prudence et désir, le livre interroge les conditions d'une joie durable. Il montre aussi que le bonheur ne peut pas être réduit à la satisfaction immédiate, car il suppose une maturation du jugement, de l'attention et de la mesure. Quatrièmement, l'art, les rituels collectifs et les Jeux olympiques comme discipline de la mesure. Un autre axe important du roman est la place accordée aux pratiques collectives, qu'il s'agisse du théâtre, des fêtes civiques, des concours d'éloquence ou des Jeux olympiques. Ces activités ne sont pas traitées comme de simples décors historiques, elles expriment une certaine idée de l'éducation du corps et de l'esprit. Le théâtre, par exemple, est à la fois un lieu d'expression et un exercice de retenue. Le sport célèbre la force tout en la soumettant à des règles. Les cérémonies publiques créent du lien social en transformant les individus en participants d'un ensemble commun. Schmitt insiste ainsi sur la dimension formatrice des rituels qui apprennent à se situer dans une mesure partagée. Le roman suggère que la culture n'est pas un supplément d'âme, mais une condition de la vie commune. En ce sens, l'art et le sport deviennent des moyens de civiliser les passions plutôt que de les nier. En dernier lieu, un miroir critique pour le présent à travers les vertus grecques de nuance et de limite, au-delà de la reconstitution historique, le livre fonctionne comme un outil de réflexion sur le présent. Les valeurs grecques mises en avant dans le roman servent de contrepoint aux excès contemporains s'accélération, marchandisation, narcissisme, obsession de la performance et simplification des échanges. Le texte valorise au contraire la nuance, la parole juste, l'entraide et la reconnaissance des limites. Cette opposition ne relève pas d'une nostalgie décorative, car elle aide à penser les dérives d'une société qui confond souvent visibilité, efficacité et liberté. La Grèce antique devient alors un miroir critique, elle montre qu'une communauté solide repose moins sur l'intensité permanente que sur des formes de mesures partagées. Le roman se distingue par cette capacité à relier érudition historique et interrogation civique. Il ne demande pas seulement de comprendre Athènes, mais d'évaluer nos propres manières de désirer, de juger et de vivre ensemble. En conclusion, La Lumière du Bonheur s'adresse d'abord aux lecteurs qui apprécient les romans historiques nourris de philosophie, mais aussi à ceux qui cherchent dans la fiction une réflexion sur la vie collective. Le livre conviendra particulièrement à un public intéressé par la Grèce antique, la naissance de la démocratie, le rôle du théâtre et la pensée socratique du désir. Il offre un double bénéfice, une immersion narrative dans une époque fondatrice et une mise à distance utile de nos propres habitudes sociales et morales. Là où beaucoup de romans historiques se contentent de reconstituer un cadre, celui-ci cherche à faire fonctionner l'Antiquité comme instrument d'analyse du présent. Sa singularité tient à cette alliance entre érudition accessible, ampleur romanesque et portée philosophique. Le lecteur y trouve moins une leçon fermée qu'un ensemble de questions précises sur l'appartenance, le bonheur, la mesure et la responsabilité. C'est ce mélange de récits, d'idées et de perspectives civiques qui distingue ce tome de nombreuses œuvres du même genre. Si vous souhaitez soutenir Eric Emmanuel Schmitt, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.